Eh oui, RDIWA 107.5, vous avez bien entendu, c'est le premier CCC de 2014 et toute l'équipe va dans un instant, en se présentant ou se représentant, vous souhaiter une excellente année 2014. Nous sommes repartis, c'est déjà le 12e numéro de CCC, vous connaissez le principe. Des débats autour de l'actu, les lycéens s'expriment autour de l'actualité, s'emparent de l'actualité. Et on va envoyer notre générique préféré, notre jingle CCC numéro 12 et le sommaire juste après. C'est ça la classe numéro 12, donc, et comme d'habitude, trois sujets aujourd'hui. On va commencer par parler de la Turquie. Il en a beaucoup été question pendant ces vacances de Noël. La Turquie est en zone perturbée en ce moment. Le Premier ministre Erdogan est sur la sellette. Les Turcs sont dans la rue et veulent sa démission. La corruption d'un côté et de l'autre des volontés fortes de certains politiques pour pouvoir intégrer l'Europe. La Turquie peut-elle, doit-elle intégrer l'Europe? Elle est un peu au carrefour entre l'Asie et l'Europe sur le plan géographique. Pour la politique, c'est peut-être une autre histoire, bien que ce soit un pays laïque. Nous en parlerons donc dans moins d'une minute. Pour notre deuxième sujet, nous parlerons en cette année forte d'élections politiques en 2014, municipales en mars et puis au mois de juin européennes, de cette question qui intéresse un certain nombre de politiques. Faut-il rendre le droit de vote, transformer plutôt le droit de vote en France? Faut-il le rendre obligatoire comme dans certains pays comme la Suisse, ceci pour éviter le trop grand nombre d'abstentionnistes? Enfin, troisième sujet aujourd'hui, est sorti sur vos écrans le 1er janvier, La vie rêvée de Walter Mitty. C'est un film de et avec Ben Stiller sur le bonheur, sur un personnage ordinaire qui va vivre un parcours extraordinaire. On est en des temps de résolution en début 2014. Est-ce qu'on doit réaliser tous ses rêves? Est-ce que c'est pas dangereux de croire à tous ses rêves? Est-ce qu'on doit vivre sa vie, rêver sa vie, au risque de certaines désillusions lorsqu'on se confronte à la réalité? Les jeunes qui sont autour de la table et nos lycéens et lycéennes, évidemment, sont pleins de rêves, du moins on l'imagine. Ils nous diront lesquels et ils nous diront s'ils ont très envie de les réaliser ou s'ils ont peut-être plus les pieds sur terre que ça. Pour l'instant donc, et puis évidemment nous terminerons par les coups de cœur et les coups de gueule, vous avez l'habitude de ciné ou dans l'actualité à la fin de l'émission. Je vous rappelle que le standard est toujours ouvert et que le numéro est toujours le même, 0952 368 531, 0952 368 531, CCC 12, c'est parti. Et donc notre premier sujet, c'est la Turquie. Je vais quand même d'abord, je l'ai promis tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, souhaiter la bienvenue à tout le monde et chacun va se présenter. On a en plus un grand revenant, un grand retour qui faisait partie de la bande l'an dernier et qui pour cause d'études de baccalauréesque n'est plus libre le mercredi, qui exceptionnellement est libéré de ses activités honnêtes, sport naturesque, c'est monsieur Antonin. Bonjour Antonin.
Bonjour à tous.
Et ravi de te retrouver à cette table.
Plaisir partagé.
Et à cette antenne surtout. Ensuite nous avons Julien.
Bonjour à tous.
Tu veux souhaiter bonne année aux auditeurs, Julien?
Eh bien oui, bonne année à tout le monde et que cette année donc, soit pleine de bonnes choses et de bons moments pour tout le monde.
Voilà, et Julien prendra comme résolution en 2014 de ne plus parler la bouche pleine.
Voilà, c'est pas très poli.
Vous savez que je vends toujours la mèche, j'ai été obligé de le savoir. Mais si vous avez deviné un léger chaotique, c'était parce qu'il était en train de manger, mais c'est un peu l'heure. Jean-Raphaël, bonjour.
Bonjour.
C'est un jeune homme de seconde, vous savez que c'est le technicien assistant, bientôt chef numéro 2, avec monsieur Joris, à qui on va dire bonjour aussi.
Bonjour.
Bonne année Joris.
Bonne année.
Monsieur Ulysse.
Bonjour, bonne année à tous.
Bonjour Ulysse. Et puis Théo.
Bonjour.
C'est le petit frère, pas si petit que ça, d'Antonin précité. Bonjour mademoiselle Magda.
Bonjour.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour Jimmy.
Bonjour.
Bonne année à toi et bonne année à tous nos auditeurs fidèles de CCC. Et enfin, bonjour à monsieur Arthur.
Bonjour et bonne année.
Alors, la Turquie, est-ce que vous pensez que ça sera, c'est un peu rapide à mon avis, mais 2014 pourrait être l'année, si ce n'est de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, en tout cas d'avancer dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour la France, pour la Turquie? Est-ce que c'est dangereux, à l'inverse? Certains le pensent. Bref, la Turquie dans l'Europe, est-ce que c'est un rêve? Ça sera le sujet numéro 3. Ou est-ce que c'est possible, Ulysse?
Alors d'abord, moi, avant de parler, enfin, on en parle, mais je voudrais préciser que la Turquie, à part sa partie occidentale, n'est pas dans ce qu'on définit comme l'Europe continentale. C'est une partie de l'Asie, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment l'Asie de l'Ouest, mais ça ne fait pas partie du continent européen. Donc concrètement, enfin, géographiquement parlant, c'est déjà la question de savoir est-ce qu'on intègre un pays qui est à 90% dans un autre continent. Et dans ce cas-là, on arriverait à une Union européenne qui n'est plus si européenne que ça. Donc premièrement, je vais poser cette question-là. Ça ne bloque pas totalement, mais on doit d'abord répondre à cette question-là. Est-ce que l'Europe a une destinée européenne ou a une destinée beaucoup plus régionale, beaucoup plus presque mondiale? Donc voilà. Et deuxièmement, mon point de vue, c'est que donc la Turquie a longtemps été considérée comme un État entre guillemets islamique, mais laïque et un exemple de démocratie dans un pays islamique. Mais je voudrais signaler que actuellement, depuis un an, il y a un retour énorme de la religion dans ce pays. Par exemple, exemple significatif, depuis quelques semaines, quelques mois, les femmes au Parlement remettent le voile, alors que ces mêmes femmes-là ne le mettaient plus le voile depuis de longues années. Et donc, entre ces choses-là, il y a un retour de la religion dans le pays qui est important, qu'il faut signaler, mais comme pour le problème continental, ce n'est pas quelque chose qui va bloquer totalement, mais c'est à savoir pour ce débat-là.
Donc ça ne te paraît pas totalement incompatible par rapport à la culture européenne?
Pour moi, non.
Mais pouvant poser problème et question quand même.
Oui, je pense que le problème religieux, le problème culturel est important. En Europe, c'est vrai qu'on a une culture commune, mais pas tant que ça. Quand on voit les différences, par exemple, du point de vue économique entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, ces divisions sont énormes. Donc je pense que du point de vue religieux, ce n'est pas tant là le problème, même si, évidemment, ça ferait crier beaucoup et il y aurait sans doute quelques problèmes. Comme d'habitude, les gens vont dire « Ah, mais tous les islamistes vont venir nous envahir ». On disait la même chose dès qu'il y avait les pays de l'Est qui sont entrés dans l'Union. Tout cela, ce ne sont que des contre-vérités.
Et pour ce qui est du régime politique, puisqu'il quand même en ce moment est particulièrement répressif, il y a des gens dans la rue, c'est pas vraiment apprécié, et il y a des gens qui sont jetés en prison et qui sont largement victimes de répression. Est-ce que ce type de régime politique est compatible avec les démocraties européennes, Antonin?
Je pense qu'à partir du moment où l'Union européenne elle a une politique vraiment qui met... Il y a des valeurs qui sont la démocratie. À partir du moment où le pays qui veut rentrer dans l'Union européenne ou qui fait partie de l'Union européenne ne respecte pas cette démocratie et supprime le droit d'expression, voilà, des valeurs comme ça que l'Union européenne encourage, je pense que ce pays n'a rien à faire dans l'Union européenne. Parce que après
c'est plus radical qu'Ulysse. Pour l'instant, l'État où on en est, serait non, si tu devais...
À partir de la Turquie, si elle ne respecte pas...
une condition, en tout cas.
Voilà, c'est une condition. Il faut être dans une démocratie et le montrer, avoir des exemples concrets, parce que ce n'est pas tout de se dire une démocratie. Il faut aussi, le mettre en place. Et voilà.
Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas, c'est sûr. Pour l'instant, vous avez suivi un peu pendant les vacances là, tout ce qui s'est passé en Turquie, notamment ces manifestations
C'était il y a plus longtemps les manifestations, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, les manifestations Taksim. Il y a eu un renouveau pendant ces vacances.
Ça a commencé sur la fameuse place Taksim, mais ça a continué là pendant les vacances, et les répressions ont surtout eu lieu pendant les vacances de Noël. Oui. C'est Jimmy. Tu t'entends pas? On t'entend. On t'entend d'un peu loin, mais
en fait,
on va régler ça.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Qu'il faudrait soumettre à condition, je pense, par rapport à la Turquie, mais sur du long terme. Pas s'ils passent en démocratie, ils peuvent rentrer dans l'Union européenne. C'est genre quelque chose de très long. S'ils passent en démocratie, sur 2, 3, 4 ans, même 10 ans, ils pourraient rentrer, mais pas tout de suite. Ils ne peuvent pas rentrer avec une...
Et ça fait déjà bien 3, 4 ou 10 ans qu'on en parle. Hein. Et c'est vrai que ça fait longtemps que... Certains ont plus ou moins ouvert la porte selon les politiques qu'on a eues au pouvoir aussi en France ou en Europe. Quelqu'un d'autre, Arthur, peut-être?
Oui, alors moi, en ce qui concerne la Turquie, j'ai pas spécialement une certaine opinion, mais déjà, tout le monde sait que quand on doit rentrer dans l'Union européenne, on doit être... Enfin, ça dépend quel pays, mais on doit du coup se fixer sur le modèle européen et donc... avoir la monnaie européenne, donc l'euro, ce qui est assez compliqué parce que pour certains pays comme la Croatie qui est rentrée en juillet ou la Grèce, on voit maintenant que la Grèce est quand même dans une grosse crise économique et que c'est pas facile d'être sur modèle européen avec l'euro. Et donc si la Turquie a des problèmes économiques, c'est pas toujours facile.
D'accord. D'autres opinions ? Les filles ? Non. Sophie et Magda ne sont pas inspirées par la Turquie. Vous êtes déjà allés en Turquie ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés en Turquie ? Et on va écouter Jean-Raphaël si Magda et Sophie n'y sont pas allés. Moi, je suis allé il y a 3-4 ans à peu près. On parlait déjà de ça. Et je me souviens que le guide nous avait dit, alors c'est un témoignage parmi d'autres, que de moins en moins de Turcs eux-mêmes, citoyens turcs, avaient envie, d'après lui, d'entrer en Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient que c'était un peu la crise en Europe et que finalement l'euro et tout ce qui allait avec ne leur donnait pas forcément envie d'entrer. Donc je crois qu'ils sont aussi en train d'évoluer et peut-être d'être moins dans la pression pour pousser la porte. Jean-Raphaël et Ulysse ?
Oui, bah, moi je suis un peu d'accord avec Arthur.
Peu seulement. Dis-nous pourquoi.
Oui et non.
Je pense que, comme il a dit, au point de vue économique, pour la Turquie, ça serait compliqué s'ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Et je pense qu'aussi, même au point de vue politique, je pense qu'il faut qu'ils fassent des efforts s'ils veulent rentrer. Notamment, comme il a dit Antonin, il faut que ce soit une démocratie. Et je pense que pour l'instant, c'est assez compliqué que la Turquie rentre en 2014 dans l'Union européenne.
Ulysse ? Ouais, moi, je voulais juste signaler, enfin, je ne suis pas allé en Turquie, mais j'ai pris des avions de la Turkish Airlines, et dans les avions, il y avait un dépliant de pub, enfin entre guillemets de pub, pour rentrer dans l'Union Européenne. Donc c'est-à-dire que même l'entreprise, qui est une très grosse entreprise en Turquie, a dans tous ses avions, donc tous ceux qui prennent l'avion ont des sortes de pubs, des sortes de tracts dans l'avion pour signifier donc en turc et en anglais que la Turquie a tout à gagner dans l'Union Européenne en intégrant l'Union Européenne. Et donc, il y a quand même une volonté, bah, en tout cas de cette partie-là entrepreneuriale et donc de la grande entreprise, de vouloir intégrer l'Union Européenne, sans doute pour pouvoir accéder à des marchés, pour pouvoir avoir des facilités, pour intégrer aussi l'Europe qui est aussi très libérale et qui intéresse les économies.
Puis c'est la fameuse solidarité européenne aussi, hein, qui fait que, on l'a vu avec la Grèce notamment et surtout, qu'on est solidaires les uns des autres et que forcément ça peut donner envie à d'autres pays aussi. Ça ne se résume pas à ça l'Europe, mais aussi, comme tu le dis, à l'argent et une Europe globalement majoritairement libérale, c'est vrai, mais solidaire, là, ce n'est pas incompatible pour le coup. Ce qui d'ailleurs est un contre-argument pour certains qui trouvent qu'on n'a pas à aider à chaque fois qu'un pays est par terre et de se mettre par terre soi-même. Bon, c'est peut-être un raccourci, mais c'est ce que certains pensent aussi. Oui, Antonin et Théo. Les deux frères.
Alors,
les trois frères, c'est bientôt, c'est en février, c'est les inconnus qui reviennent. Le retour, mais ça n'a rien à voir.
Au sujet des frontières, je reste un peu plus ouvert. Parce que je pense que derrière les frontières de l'Europe continentale, il y a des liens qu'on tient avec certains pays, notamment la Turquie. Je pense qu'il y a des liens forts avec l'Europe. On sait que c'est un carrefour entre l'Europe, l'Asie. Après, et je sais aussi qu'il y a certains pays du Maghreb qui seraient intéressés aussi par cette rentrée dans cette Union européenne. Et je pense qu'au niveau des frontières, si on a de vrais contacts avec l'Europe, je pense qu'il n'y aurait pas tellement de soucis à faire rentrer ces pays-là.
On va passer au sujet numéro 2. Parce que là, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on nous entendait sur Internet et pas à la radio. Donc si jamais il y a des gens qui nous entendent, on va arrêter de dire des bêtises. C'est très énervant, ces soucis techniques, ça c'est clair. Mais on va essayer de ne pas se décontenancer et de continuer sur le sujet numéro 2, qui est donc sur la politique. C'est une année 2014 riche en élections, municipales en mars, européennes en juin. Deux tours pour les municipales, un seul tour pour les européennes. Est-ce que ça vous concerne ? Alors vous n'êtes pas encore des citoyens à part entière, futurs, en devenir, parce que vous n'êtes pas majeurs. Mais est-ce que vous pensez être des gens qui allaient voter quand vous pourrez très bientôt, dans quelques mois pour certains ? Peut-être d'ailleurs pour Antonin quasiment, non Antonin ?
Non, pas. Moi, je suis
cette fois-ci.
Du coup, en mars.
D'accord. De peu, et pour les deux, les européennes et les autres. Est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire ? Certains disent on ne comptabilise pas. Il est possible que ça change. Les abstentionnistes, et donc ça n'a pas de sens. Plus personne ne va voter, en n'exagérant rien, mais beaucoup ne vont pas voter. Donc, est-ce que le moyen de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abstentionnistes, par définition, c'est pas de rendre le vote obligatoire ? Oui, Arthur.
Ben, je dirais que quand même le vote c'est un droit comme un devoir des citoyens, même si tout le monde dit que ça sert à plus maintenant au jour d'aujourd'hui ça sert plus à rien de voter, mais quand même ça reste, si on veut pas que certains partis politiques accèdent au pouvoir si facilement, il faut quand même voter. Tout le monde dit que ça ne sert à rien, mais c'est quand même, voilà, ça reste un droit comme un devoir.
Ulysse ?
Moi, il me semble que d'obliger le droit de vote, il ne me semble pas que ce soit une bonne chose, mais avant tout, moi je suis, je pense pas être le seul, pour une reconnaissance plus importante du vote blanc. C'est-à-dire que quand on a l'impression qu'on n'a pas, que notre idée, nos points de vue ne peuvent être défendus par aucun des personnes qui se présentent, et ben pouvoir comptabiliser le droit de vote, c'est éviter qu'il y ait des gens qui se disent bon, « de toute façon, il n'y a personne qui me plaît ». Donc je ne vais pas voter. La chose qu'il faudrait faire, c'est qu'il n'y a personne qui me plaît, mais je vais voter parce qu'en tant que citoyen, j'ai droit aux urnes. Donc si personne n'y va, la démocratie s'arrêtera. Donc c'est ça. Et donc par le droit, le vote blanc, je pense qu'on pourrait un petit peu relancer cela. Voilà.
Le vote obligatoire, c'est pas encore dans les tuyaux. Ce qui est dans les tuyaux, par contre, justement, c'est, j'ai entendu encore récemment, par le gouvernement actuel, peut-être de proposer un projet pour comptabiliser justement les votes blancs et rendre ça.
Après, il y a la question de la proportionnelle aussi.
Oui.
Enfin, bon, après, si par exemple, il y a un certain tour, il y a plus de votes blancs que les votes blancs sont plus puissants, enfin, sont plus hauts que tous les votes qu'ont eu les autres candidats, qu'est-ce qui arrivera, quoi?
Bah, ça veut dire que aucun homme politique n'a pu défendre le point de vue de beaucoup de Français, ce qui voudrait dire qu'il faut qu'ils changent leurs idées pour pouvoir les défendre. Et qu'on a besoin de quelqu'un d'autre que les dizaines de candidats qu'il y a.
Alors si vous nous rejoignez, chers auditeurs de CCC, nous sommes passés au sujet numéro 2. Visiblement, on a eu encore un petit bug technique, mais il semblerait qu'on nous entende à nouveau, donc on est interrompu par de la musique. Donc merci d'avoir patienté et de ne pas avoir éteint la radio malgré la magnifique musique qui est proposée. C'est un peu pénible au milieu d'une conversation. Donc on avait de toute façon quasiment terminé le sujet sur la Turquie. On l'a vraiment terminé en catimini, mais très peu promis. On est passé donc au sujet 2. Doit-on rendre le vote obligatoire en France? Et pardon encore pour ces soucis techniques. Théo.
Bah moi je pense qu'il faut... Il y a plusieurs personnes là qui... Mais on a vu pour les élections présidentielles qui votent pas vraiment souvent dans leur avis, mais surtout logique. Parce qu'on peut pas, je comprends pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui votent blanc, alors qu'il faudrait, ils ont la chance d'avoir le droit de vote et de décider qui ils vont vouloir dans leur parti. Et ils devraient voter logique au lieu de voter blanc. Même si
c'est que voter logique, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas voter blanc en tout cas pour toi, c'est ça?
Non, c'est.
Voter quelqu'un.
Voilà, voter quelqu'un, c'est...
Parce que blanc, c'est pas vraiment un choix pour toi.
Après, il y a... Non, pour moi, c'est,
oui,
c'est
mais
pas
si
un choix.
Aucun des candidats n'a...
C'est même l'absence de choix.
Conquis le...
Il y a peut-être aucun des candidats qui a conquis, mais il y a bien quelqu'un que tu dois moins aimer que d'autres.
C'est ça, c'est
donc
pas
tu vas faire... Oui, on va faire en...
C'est le moins mauvais, des fois.
Pour pas
qu'il
passe, quoi. Oui, c'est ça.
Et est-ce que vous pensez que c'est différent de ne pas les voter du tout, de ne pas se déplacer, d'aller à la mairie et de... Ou ailleurs...
Ça change tout.
Voter, ouais, mettre un bulletin blanc.
Il
y a un geste quand même.
Il y a quand même le sentiment de dire oui, moi personne ne me plaît, je vais quand même voter blanc. Alors que si on n'y va pas, c'est juste ben, c'est un peu j'en ai rien à faire. C'est pas,
je suis anarchiste.
Tout à fait. Mm-hmm.
Mademoiselle Magda.
Et puis, enfin, je pense que dire que c'est obligatoire d'aller voter, enfin, la France c'est une démocratie et on est, enfin, il n'y a plus d'obligation.
Mais
et...
ça reste un devoir du citoyen.
Un devoir et non une obligation.
Voilà.
Et je pense qu'on doit rester là.
Donc c'est pas inscrit dans la loi, effectivement. Voilà. Ça n'est pas une obligation par définition. C'est une autre conception de la démocratie de considérer que le vote devrait être obligatoire. 0952 368 531. Tout à l'heure, c'était pas un auditeur, c'était quelqu'un qui nous prévenait gentiment, je crois, qu'il y avait des soucis techniques. Donc merci à lui ou à elle. Soutenez-nous, à madame, c'est ça, nous dit Joris. Encouragez-nous encore plus, prouvez-nous que vous êtes resté au-delà du petit incident musical, si je puis dire, et appelez-nous au 0952 368 531 pour ou contre le vote obligatoire en France. Oui, Ulysse.
Moi, je pense que derrière cette question de vote obligatoire, qui est posée par le fait qu'il y a un abstentionnisme énorme, c'est finalement la question de pourquoi les gens n'y vont pas, et donc de la défiance aujourd'hui présente face aux politiques et de la dépolitisation finalement qu'il y a, et c'est ça vraiment qui fait peur, et que les gens, en quelque sorte, n'en ont plus rien à faire, parce qu'ils se disent, c'est fini. Il y a un tous pourris qui fait que ce soit lui, elle, etc., ça va pas changer grand chose. De toute façon, ils ont jamais rien réussi à faire, quoi que ce soit. Et donc, les gens vont pas voter. C'est vraiment ça. Ce contre quoi il faut lutter. Et voilà, finalement, je pense que l'abstentionnisme, ce n'est que le symptôme, la conséquence de ce problème beaucoup plus large qui est vraiment problématique pour une démocratie comme la démocratie française.
Autour de vous, les adultes qui vous entourent, est-ce qu'ils vont régulièrement voter, tout le temps, jamais, de temps en temps ? Vous avez pu observer ça, malgré votre jeune âge, dans les dernières élections, notamment présidentielles, qui ont été les dernières, tout court, avant législatives tout de même, et les dernières importantes. Antonin ?
Moi, mes parents, par exemple, on a toujours l'espoir que les choses pourraient changer. Pareil, ils sont encore en train d'hésiter justement à savoir est-ce qu'il faut aller voter, est-ce que ça va changer quelque chose de voter, parce qu'on remarque, comme l'a dit très bien Ulysse, il n'y a pas grand-chose qui change et beaucoup de gens se retrouvent toujours dans la même situation et c'est difficile d'en sortir. Du coup, est-ce que vraiment il faut faire confiance aux politiques ? Est-ce que les changements sont vraiment réels ? Et c'est pour ça que on vote toujours, on a toujours l'espoir, mais est-ce que ça va changer ?
D'accord. Jimmy, Arthur ?
En fait, ce qui se passe à chaque fois qu'un président est élu, c'est qu'il a un programme, enfin quasiment à chaque fois. Pour le moment, tant que j'ai été...
Systématiquement, ils ont un programme.
Oui, non, mais...
Plus ou moins
crédible. Tant que j'ai un peu compris, et tant que j'étais là, c'est-à-dire sur deux présidents, les deux, ils avaient un programme, ils l'ont respecté au début de leur...
Mandat,
voilà, au début de leur mandat. Et après, ils n'ont plus rien fait. Et c'est ça qui gêne les personnes, que, par exemple, ils promettent des choses et ils ne font pas, et tout le monde répète les mêmes mots. C'est-à-dire que tout le monde dit, oui, machin, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, et en fait, ils font les premiers, mais pas les derniers.
D'accord. Arthur ?
Oui, mais pour défendre quand même les hommes politiques, aujourd'hui, on est dans un contexte de crise quasiment irréversible. Et les gens qui contestent les hommes politiques, ils sont qui pour dire ça ? Ils ont quand même été élus par les citoyens français, pas par tout le monde, bien sûr, mais quand même, c'est des grandes personnes à qui on doit faire confiance, même si c'est pas toujours facile. Il faut se dire que c'est pas facile pour eux.
Puis on peut s'engager aussi. À la limite, quand on est critique à ce point-là, rien, c'est compliqué, mais n'interdit de soi-même de se présenter aux élections.
Voir le président et donner leur mécontentement.
S'engager dans une association, pas forcément politique, ou un parti politique, pourquoi pas.
Mais alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ce que je pensais, mais je traduisais le sentiment de beaucoup.
On avait bien compris.
Et
te lamenter de ce que
beaucoup pensent. Par contre,
à cause de certains politiques, probablement quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme dit l'autre.
C'est certain, mais ce que je voulais dire, ce que je veux préciser, c'est que pour ma pensée à moi, il faut absolument aller voter, parce que justement, si on ne va pas voter, on laisse des gens qui pourraient être énervés voter pour certaines personnes qui justement, eux, feraient les choses qu'ils disent dans leur programme et qui seraient au-delà du catastrophique pour la France, l'Europe.
Je pense aux extrêmes, là, il me semble.
Aux extrêmes, un plus qu'un autre, vous aurez deviné. Mais franchement, je pense que rien que pour limiter... c'est pas limiter, c'est qu'il n'y ait pas un nouvel 21 avril 2002 et qu'on ne soit pas obligé de choisir...
Par défaut.
De lutter contre quelque chose qui serait... plus que catastrophique et qui nous enfoncerait dans... Non, pas le chaos, parce que voilà, mais presque, parce que... Et c'est complètement... Et voter, c'est aussi lutter contre les idées auxquelles nous luttons. Enfin, c'est un peu une...
Arthur,
et puis,
on a bien compris.
Ce que je trouve vraiment très bizarre, c'est qu'on a vu dans d'autres pays comme l'Allemagne, dans les années à partir de 1933 jusqu'à 1945, la montée de l'Allemagne nazie. Et du coup, on a vu que des partis...
De 33 à 39, la montée. Et puis après, on n'était plus dans la montée, malheureusement. On était dans l'apogée. Ouais. Et dans la pratique, surtout, la mise en œuvre.
Voilà. Et du coup, on a vu que le parti nazi, ils ont fait c'était totalement horrible. Et comment on peut se dire que 60 ou...
65 millions.
Oui, voilà. 60 ou même 70 ans plus tard, on soit encore à une certaine montée des extrêmes. Alors qu'on voit que des partis extrêmes ont pu faire des choses comme ça.
Oui, car surtout, ce qui est le plus grave avec le parti nazi, c'est qu'il a été élu par le peuple, quoi.
Oui, mais c'est ça, c'est la démocratie.
Il a été chancelier.
La
démocratie peut se retourner parfois contre les démocrates.
Parce que justement, on est en situation de crise, de dépolitisation. Et les gens, il y a aussi... les institutions commencent à faillir. et les gens ne savent plus où ils sont, qui sont-ils, ils n'ont plus de travail. Et comme en 1930, 1931, 1932, 1933, on sait que c'est les crises, les moments les plus durs, les moments de crise politique, économique, sociale, que on a envie de tout changer, et quand on a envie de tout changer, on vote aux extrêmes. Et donc, il faut se méfier de ça. Et je pense que la meilleure façon, finalement, de lutter contre les extrêmes, eh bien, c'est de résoudre la crise. Très facile à dire. Mais que voulais-tu dire, Arthur ? Non,
c'est facile à dire qu'à faire, peut-être. Hein. Oui, ça ouais. voulait dire, Arthur. Mais, bah, oui, c'est bien le problème.
Mais, et non pas... dire eux, enfin, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça sert pas à grand chose, ça va être le chaos. Ce qu'il faut faire, c'est entre guillemets résoudre les problèmes. Bon, ça, bonne chance aux dirigeants. Hein. Et puis...
Oui, monsieur Julien.
Alors après, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Ulysse, mais le problème, c'est que maintenant, les gens, il y a certaines personnes qui en ont tellement marre que les choses bougent pas forcément avec les gouvernements qu'on a, que ce soit de gauche comme de droite, qui se disent, bah maintenant, de toute façon. Qu'ils soient de gauche ou de droite, ils font à peu près tous la même chose. Ils font à peu près tous rien pour rester, pour rester dans les polémiques qui sont actuellement. Et du coup, les gens se portent vers les extrêmes parce qu'ils disent, eux au moins, certes, ils sont extrêmes, mais ils feront bouger les choses. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut avoir peur. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Parce que si on laisse les gens faire n'importe quoi, c'est comme ça qu'on va tomber dans un piège.
Ouais, tout à fait d'accord avec Julien.
En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont là, donc ils mettent des taxes, donc ça, c'est normal, parce que si on veut augmenter les frais de la France, il faut forcément que les gens payent. Ce qui ne vise pas, c'est les bonnes personnes, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils augmentent les taxes, que tout le monde les paye, c'est toujours les mêmes qui les payent et les mêmes qui arrivent à passer à côté. Quoi. Je suis désolé, mais c'est toujours ceux de classe moyenne et de classe basse qui payent bien leurs taxes, qui payent bien tout ce qu'ils ont à payer, et les plus riches qui disent non, on ne veut pas donner notre argent, les plus radins et.
Oui, comme
c'est ça qu'ils mettent en Suisse, qui
se comme le ministre du budget, par exemple.
Ou en Russie, ouais.
Par exemple.
Mais, ouais,
les conseillers ne sont pas les payeurs.
Ouais, pour revenir sur cette histoire de taxes, les taxes, c'est la chose qui fait dire mais les politiques, ils sont complètement à côté de la plaque, ils nous font payer alors que c'est pas à nous. Je suis tout à fait d'accord. Mais actuellement, les politiques de droite comme de gauche, l'a dit Julien, ils mènent une politique de libéral, que ce soit le gouvernement Fillon ou aujourd'hui le gouvernement Euro, ils mettent une politique, on l'a encore plus vu avec les vœux du président, complètement libérale, qui fait qu'ils réduisent les taxes aux entreprises et aux personnes les plus riches, et un petit peu, ils augmentent un petit peu les taxes pour les classes moyennes, ce qui fait que on va se retrouver avec du 20 ou du 30% du FN aux élections européenne, ce qui fait que, pour revenir au sujet des élections européennes, on va se retrouver avec un Parlement européen ayant une majorité contre l'Europe, entre les extrêmes gauches et les extrêmes droites. Partout en Europe, les gens vont voter aux élections européennes pour des partis anti-européens. On va se retrouver à Strasbourg, au Parlement européen, avec la moitié des députés qui vont être contre l'institution dans laquelle ils siègent, ce qui est une absurdité totale et ce contre quoi il faut lutter.
Fait partie des paradoxes, effectivement, des règles du jeu politique. En tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, et si je puis me permettre, politique, auditrices et auditeurs politiques, je pense que vous entendez depuis un quart d'heure maintenant sur ce sujet à peu près nos lycéennes et lycéens qui ont des choses à dire sur la politique. Donc, je me permets de lancer un appel ici à cette antenne, au moins sur le plan local. Il y a bientôt des élections municipales et que toutes celles et ceux qui sont candidates et candidats aux élections municipales d'Audi sont les bienvenus dans cette émission. Nous sommes en direct, c'est une liberté de parole totale. Et si vous avez envie de rencontrer des jeunes, de répondre à leurs questions sur votre conception de la politique, de la chose politique, de la chose publique, de la chose citoyenne qui concerne chacun et chacune d'entre nous et avec des jeunes gens qui sont de futurs citoyens, eh bien n'hésitez pas. Contactez-nous, contactez-moi et nous organiserons volontiers des rencontres successives entre vous, différents candidats qui postulez à la mairie d'Audi et ces jeunes gens qui ont plein de questions à vous poser, j'en suis persuadé. Vous êtes d'accord ?
Oui, même si peu sont finalement surdits, on aura toujours des questions plus générales.
Je parlais des élections municipales.
Oui, c'est bien ce que je dis, c'est que à ma connaissance, personne dans cette salle n'invite à Audi, mais à part vous.
Cette semaine, mais il arrive, il me semble, qu'il y ait des diwa, mais bon, peu importe, effectivement, on posera des questions sur l'engagement politique de manière générale. Effectivement, autour de la table, on a essentiellement des gens de l'extérieur, mais qui ont certainement des questions à poser à des futurs maires, tout court. On a terminé sur ce sujet-là ? Je ne sais pas si Joris est en mesure de nous envoyer notre jingle. Nous marchons sur des œufs avant le sujet numéro 3. Le suspense est insoutenable. Victoire.
C'est ça la classe.
C'est ça la classe numéro 12. Et nous passons au troisième et dernier sujet du jour avant les coups de cœur et les coups de gueule de la quinzaine et même un peu plus puisqu'on a eu les vacances de Noël entre temps. Il s'agit de parler du rêve, cette part de rêve que chacun porte en soi. Sujet large, intime et passionnant s'il en est. Est sorti donc un film grand public, on peut dire ça comme ça, avec un acteur et réalisateur désormais qui s'appelle Ben Stiller et qui est assez connu, je pense que vous le connaissez autour de cette table, qui a fait beaucoup de films plutôt légers, comiques, populaires, peut-être un peu lourdingues diront certains. Et là, il change un peu de registre, puisqu'il joue moins le rigolo de service. Ça s'appelle donc La vie rêvée de Walter Mitty. J'ai vu ça pendant les vacances, c'est sorti le 1er janvier. C'est en ce moment dans les salles. Est-ce que certains l'ont vu autour de cette table? Non, pas encore. Si, Sophie? Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Explique un petit peu aux auditeurs quel est le sujet du film et quel rapport c'est avec le rêve. Et donc le point de départ, je te laisse la parole juste après, de ce débat, c'est est-ce qu'on doit vivre ses rêves ou plutôt rêver sa vie? Est-ce que c'est pas dangereux si on rêve trop, surtout quand on est jeune, qu'on a plein d'ambitions, j'imagine, vous allez nous dire lesquelles, plein de projets pour sa vie, de parfois se confronter à la réalité, ça peut être déjà arrivé malgré votre grande jeunesse, et de se rendre compte qu'on est peut-être trop vite désillusionné. En quoi ça parle de ça, ce film, et de ce petit homme ordinaire là, qui travaille dans un journal, c'est ça ? Life, un journal de référence qui existe vraiment aux États-Unis, magazine.
Bah, moi, j'ai plutôt bien aimé. Enfin, j'ai trouvé vraiment bien. Et en fait, ça parle de la vie rêvée, parce qu'il y a des moments dans sa vie où ça coupe. Enfin, il coupe, et là, il commence à rêver. Et enfin, c'est une sorte de bug. Et les gens, ils se demandent ce qu'il fait, mais en fait, il est en train de rêver. Et après, quand il revient à la réalité, bah, on a vu que tout ça, c'était un rêve et ça pourrait pas trop se réaliser.
Il y a plein de scènes, en fait, qui mêlent le réel et l'imaginaire. À un moment donné, il tombe amoureux d'une femme qui est sa voisine de travail et il s'arrête.
Il saute dans l'appartement.
Ne lui parle plus et il a l'impression qu'il l'a sauvée, qu'il est chevalier servant et que ça y est, elle est toute à lui. Et puis elle voit un type en face qui ne parle pas. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah non, j'étais ailleurs, j'étais dans mes rêves, mais si, je t'écoute. Et il va partir, en fait, faire un peu le tour du monde, partir notamment en Islande, et les paysages sont magnifiques. En Islande, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, tu vas m'aider, j'ai oublié, mais un autre pays. Nos auditeurs iront voir lequel. Donc il y a très belles images. Et puis l'idée de ce film, c'est un peu, bah, n'importe qui peut devenir un grand homme. Alors, je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais je vais peut-être un peu le faire quand même, parce que c'est d'accord, non, on dit non autour de la table. Donc, enfin, l'idée générale, c'est que quelqu'un d'ordinaire peut... Vous verrez si vous allez voir le film comment et grâce à quoi devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et la fin du film nous donne la réponse par son métier, mais je n'en dirai pas plus. Et on ne s'attend pas à cette fin-là. Oui. Je m'y attendais un petit peu honnêtement vers le milieu du film, mais bon, c'est peut-être la seule chose qui m'a déçu un peu. Peut-être que j'ai l'habitude d'aller au cinéma.
Je sentais
un peu la chute. Si, l'histoire de la photo, on va juste dire ça. Sophie et moi seuls seront à comprendre, peut-être les gens qui nous écoutent sont allés voir le film. Il y a une photo un peu mystérieuse qui est perdue, qu'ils doivent retrouver dans le journal, donc ils vont chercher des négatifs dans les différents bureaux, etc. Et voilà, on ne sait pas ce que c'est que cette photo-là. Moi j'ai un petit peu deviné, mais bon, peut-être que tout le monde n'a pas deviné. Sophie n'avait pas deviné, donc on n'a pas tous le même regard. Bon, d'accord, toi aussi. Alors ça c'est peut-être un peu déception, parce que moi j'aime bien les chutes, les vraies chutes. C'est une belle chute, hein, c'est une belle chute. Mais le contenu peut-être un petit peu prévisible. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut vivre ses rêves, tout faire pour les mettre en œuvre, ou au contraire, essayer de se calmer un peu, même quand on est jeune? Est-ce que vous avez des rêves, plein de rêves? J'imagine, si vous me dites non, ça va être triste, mais vous avez le droit de dire non. Jimmy et Jean-Raphaël. Jean-Raphaël.
Bah oui, déjà, je pense que tout le monde a des rêves, mais il faut faire attention, parce qu'on peut vite tomber dans des pièges et que ses rêves ne se réalisent pas. Je pense qu'il faut quand même rester terre à terre et faire attention, parce qu'il y a des rêves vraiment...
Sur terre, en tout cas, terre à terre, c'est un peu péjoratif, mais rester les pieds sur terre, tu veux dire. Voilà, c'est... Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est beau ça. Mais pas trop dans les étoiles. Oui. Peut-être quand on a des rêves trop hauts, on risque d'être déçu, c'est ça?
Il y a des rêves réalisables et des rêves qui le sont plus ou moins.
Mais comment tu les classes, ces rêves réalisables?
Par exemple, si quelqu'un a envie de... Son rêve, c'est d'aller aux États-Unis. C'est un rêve réalisable.
Oui.
Alors que quelqu'un, je sais pas, qui a envie d'aller sur la Lune, c'est réalisable, mais c'est encore trop. Il peut être déçu s'il rate quelque chose, c'est quand même quelque chose de très difficile à réaliser. C'est-à-dire que c'est dans la limite de ce qu'on peut faire et de l'ordinaire.
Si on veut devenir vétérinaire, par exemple.
Bah, c'est réalisable parce que c'est quelque chose qui.
Je crois que Jimmy veut être vétérinaire, c'est pour
oui,
ça.
Bon, mais c'est pas plus un rêve que ça.
Il aime pas les chats.
C'est quelque chose que je veux devenir, c'est pas un rêve.
Vétérinaire sauf pour les chats, c'est ça? On peut faire des exclusions?
Non,
comme
j'aime pas les chats domestiques, c'est pas la même chose.
Que les tigres, tu ne soigneras que les tigres dans les zoos, c'est ça?
Non, mais j'aime pas en avoir un chez moi parce que je trouve ça trop dépendant, ça pue et voilà.
Bref. Bonjour, je rappelle donc qu'il veut être vétérinaire. Parce que les chats et les chiens, à mon avis, ça doit être à peu près l'essentiel de ce qui est soigné.
Oui, non, mais c'est parce que domestique, c'est-à-dire que quand il va pas venir infester mon cabinet quand il viendra.
D'accord, tu l'accepteras que quelques minutes.
C'est ça, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est ça. Reprenons le sujet. C'est dans la limite.
Que les chats de gouttière.
Toi.
Bon, Arthur, laissons tranquille.
Voilà.
Sa vie privée ne regarde que lui.
Non, en fait.
Ne nous regarde pas.
Ce que je veux dire, c'est.
Nouvelle référence aux inconnus.
Oui.
Bon, allez, merci.
Trois frères, le retour le 14 février.
Ah bah, tu connais même la date. Jimmy, ne te laisse pas faire. Supplante tel un tigre, donc un chat sauvage.
Ouais, bon, c'est bon, allez.
Ton camarade Arthur.
C'était super drôle, bon,
allez. Bon, je te remercie de d'appuyer à ce point-là sur mon humour, je retiens. Je suis pas vexé du tout.
Non, mais ça va. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours rester dans les limites de l'humain. On peut pas réaliser quelque chose qui est impossible à réaliser.
Julien, Arthur et Antonin.
Bah c'est vrai que surtout en ce moment, je pense qu'on est dans la période à notre âge où on a tendance à rêver un petit peu et surtout où on doit faire un choix au niveau de l'orientation. Il y en a certains qui ont tendance des fois à se projeter un petit peu trop loin et imaginer des métiers qui sont soit très réservés par rapport à la localisation dans un certain pays ou même par rapport à des capacités, que ce soit financières ou mentales, etc. Et il y en a qui se disent « Non, mais même si je peux pas, je le ferai quand même ». Et il y a un moment où il faut quand même se replonger un peu dans la réalité et se dire
est-ce que compromis peut-être entre
les... Bah voilà, il y a un moment où on se dit bon bah si je peux pas faire ça, je peux faire ça, mais voilà, revenir un petit peu à la réalité et arrêter de rêver sans pour autant se dire que un jour ça peut aussi rester comme une passion ou voilà, je pense à certaines personnes qui ont du mal à voir le rapprochement, enfin à faire le rapprochement là-dessus quoi.
Alors nos auditeurs peuvent réaliser un rêve là maintenant en direct, passer en direct, je ne m'entends plus, le rêve devient un cauchemar.
Ça arrive vu le sujet, non c'est bon, je me réentends. Donc nos auditeurs peuvent réaliser un rêve avec un doigt, un téléphone, allez deux doigts pour les moins habiles. Ils appellent le 0952 368 531 pour nous dire quels sont leurs rêves, quels sont vos rêves en ce début 2014, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé, que vous voulez atteindre, d'une pierre deux coups, vous passerez en direct à la radio, sur Radio Diwa 107.5, vous parlerez à nos jeunes et ça leur fera éminemment plaisir. Monsieur Antonin, Arthur
Ouais, moi je voulais dire que quand on a un rêve, c'est sûr qu'il va pas t'arriver tout cuit dans le bec. Enfin, on va pas y arriver sans la faire. Je pense qu'il faut vraiment.
Après les chats, les oiseaux, c'est pas trop ami en fait.
faut vraiment se donner les moyens, je pense. Et c'est pas en rencontrant, on dit oui, mais faut faire attention et choses comme ça. On est d'accord. Mais c'est pas quand on rencontre une difficulté qu'il faut pas baisser les bras. Faut vraiment se battre dans la vie pour n'importe quoi. Faut se battre pour y arriver. Et voilà, si on. Faut pas avoir de regrets.
C'est peut-être pas plus mal de mettre la barre un peu haut, même si on arrive un peu moins.
Non, mais même
si on la met trop basse,
pour n'importe quoi. Je pense que moi, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Et que si on s'en donne les moyens, si on est motivé, c'est sûr qu'on se donnera. Faut se donner le maximum de chance. Et après, quand on sera vieux, quand on sortira de notre vie, faut se dire j'ai pas de regrets. Enfin, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et,
toi, tu es journaliste, c'est ça?
Voilà.
Donc tu es déjà en train de commencer.
Oui, voilà, à réviser Sciences Po et compagnie.
À réviser, oui, mais surtout, je voulais dire bien sûr aussi, mais là, à faire de la radio.
Ouais, soit, voilà.
Donc, ce sont des débuts honorables. Peut-être qu'un jour, tu seras sur les antennes, une grande radio. Voilà. Radio, télévision, journaliste écrit,
journaliste dans la radio, ça me plairait bien. Mais bon, voilà. Mais après, le message, c'est baissez pas les bras et quand vous avez envie de quelque chose, faut s'en donner les moyens et aller jusqu'au bout.
Mettez toutes les chances de votre côté.
Tu nous inviteras, Antonin, quand tu seras sur une radio nationale. Europe 1, pourquoi pas, France ouais, Inter, RMC, on va tous les citer.
Laurent
Ruquier, autrement on peut les citer. Europe 1, France Inter ou RMC, Info, RFM, bon, après il y a toute
la musicale,
bien sûr. Énergie, ils n'en ont pas besoin parce que
c'est la première.
Tout le monde la connaît déjà,
pas
les autres aussi. Et RFI, bien sûr, qui est juste avant nous, et vous entendez le flash RFI de midi et midi 10, enfin quand vous entendez. En général, le flash, vous l'entendez, c'est nous, vous n'entendez pas toujours après. Monsieur Théo.
Mais il y en a souvent qui disent qu'il faut faire attention parce que le rêve, il y a des limites. Mais comme disait Antonin, pour moi, il n'y a pas de limite dans les rêves. C'est, la plupart des gens, il y a beaucoup de gens, personnes qui veulent faire le tour du monde, par exemple. Après, le tour du monde, c'est vrai que si tu arrives à faire le tour du monde, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent. Il y en a même qui ont démontré qu'en partant avec rien, ils ont réussi à faire le tour du monde alors que, ouais, que c'est même inimaginable.
Ce sont même des anciens sports nature.
Voilà. Et franchement, on peut tout faire et aller au bout de ses rêves, je pense.
Mm-hmm. Bah, le documentaire qui a été fait par nos anciens, anciens élèves, Nuit et Culottés, c'est une forme de réalisation de rêve aussi, parce que c'est pas évident d'aller frapper sur une chaîne de télévision, trouver un producteur qui est le même producteur que Maximin qui fait l'émission Gérer et dormir chez vous, de réussir à faire une première série de 6 émissions, je crois, une deuxième série de 6 émissions, je ne sais pas s'il n'y a pas encore une commande derrière, et une audience tout à fait respectable, oui, pour l'été sur France 5, tout à fait honorable. Donc voilà, des jeunes gens qui vous ont côtoyé, enfin presque, qui étaient vos ancêtres, qui sont un peu plus âgés que vous, et qui ont réalisé une part de leur rêve.
Ils étaient venus à l'internat...
présenter.
Ouais, il était venu à l'internat l'année dernière pour présenter, c'était vraiment super intéressant, et justement, je crois que son message, c'était ça aussi. Hein,
Je pense à ça, parce que vous parliez du tour, ouais, du monde, donc... le principe, c'est, tu peux le rappeler en deux mots, Antonin,
le principe, c'est de partir de rien, donc totalement nu, sans aucun habit, sans aucun sou, partir d'un endroit et se donner un objectif.
Mais complètement nul, l'objectif.
Par exemple, aller
faire un parapente. Nul.
Par exemple, ça peut être boire un thé avec le Lord anglais. Ça,
c'est... Ou faire du parapente en Corse.
Ouais, ça, par contre, c'est pas totalement nul, le parapente en Corse. Et du coup, ils se basent seulement leur outil.
Défi.
Leur outil, c'est le contact avec la population. Et voilà, ils demandent ou même se débrouiller tout seul. Voilà, ils se faisaient des habits.
Ils se font inviter chez des gens.
Voilà.
Avec la solidarité, ça peut marcher.
Voilà, ils font du bateau stop, de l'autostop. Ils font vraiment de...
Ils font quelque chose en échange.
Et puis échange, à la fin, ils donnent des petits cadeaux, faits main ou quoi que ce soit. Et puis le principe, c'est pas de montrer qu'ils sont nus ou quoi que ce soit. C'est la solidarité entre personnes, même si on disait qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Mais là, maintenant, ça marche très bien.
Voilà, je suis sûr que quand ils étaient petits, et qu'il avait dit, je crois, quand il était petit, qu'il avait ce rêve-là de faire ça, il était arrivé et on lui avait dit, mais écoute, je crois que tu rêves, c'est un beau rêve ce que tu as, tu vois. Et du coup, cette notion de rêve, il a vraiment voulu l'effacer et justement, ils y sont arrivés. Et,
un petit clin d'œil à Moutz et à Nance.
Ouais, voilà, c'est ça.
Si jamais ils nous écoutent. On termine avec les coups de gueule, les coups de gueule de cette émission. Actu, ciné, Jimmy veut commencer, je crois.
Météo. Ouais, c'est une actu ciné, un gros coup de
cœur. Aujourd'hui, on ne termine pas avec la météo, promis.
Un gros coup de cœur pour la deuxième partie du Hobbit, le film qui est extrêmement bien. Il y a des très bons effets spéciaux et franchement, elle est géniale.
Le titre, tu allais un peu vite.
Le Hobbit, la désolation de
très bonne intrigue, un très bon jeu des personnages. Ouais,
si vous le regardez, vous êtes obligé de regarder le troisième, sinon ça sert à rien.
Puis il finit vraiment de façon à ce qu'on aille voir le 3.
Ah, bien sûr.
C'est une incitation à aller voir le 3. Déjà, quand on a vu le 1, on veut forcément voir le 2, et quand on voit le 2, on veut forcément voir le 3.
C'est parce que le film est bien.
C'est ça. Et ça coupe pile au moment où s'y attend le mois en plus. Voilà.
Donc le Hobbit, très bien, je connais moins, mais n'oubliez pas La vie rêvée de Walter Mitty, c'est pas mal non plus. Il y a un peu aussi un côté fantastique. Voilà, Sophie nous le conseille. Les filles, des rêves, ça vous ne nous aurez pas dit. Elles ont gardé tout secret, mais des coups de cœur ou des coups de gueule dans l'actu, on vous écoute.
Moi, c'était...
On écoute Magda d'abord.
Le coup de gueule sur la TVA des centres équestres, enfin, ils ont augmenté de 15%. La TVA des centres équestres, je trouve ça pas super, parce que déjà, ils nous demandent de faire du sport, si tous nos sports, ils nous les... déjà le cheval, c'est un sport
assez cher,
voilà, pardon. Et du coup, déjà s'ils augmentent les prix, il y aura de moins en moins de personnes qui font du cheval et ça...
Tu fais du cheval toi-même?
Oui.
Tu pourras aller voir ton vétérinaire plus tard.
Non.
c'est juste les chats qui n'aiment pas les chevaux.
Surtout que l'équitation c'est aussi un sport comme un autre et il n'y a pas vraiment de raison de le taxer.
La raison pour laquelle ils ont taxé l'équitation, je la connais, c'est parce que c'est le deuxième sport le plus fait par les Français. Le plus.
Le premier, c'est lequel alors?
Le deuxième, ça me paraît.
Non, moi, je suis pas si sûr. Parce
premier,
que
c'est sûrement.
Le rugby.
Non, c'était un des trois premiers sports.
Parce que le premier, si c'est le foot.
On vérifiera, ne vous engueulez pas. Ça me paraît bizarre, le deuxième.
Le
foot, évidemment, le premier.
Un des premiers, bien sûr.
Non, tu peux dire dans les 10 premiers, parce qu'en premier, il y a le foot, ensuite, il y a le rugby, il y a le tennis, il y a le handball.
Le basketball.
Le basket aussi, ouais.
Le cricket.
Le golf.
Non, je t'ai plus.
Curling.
Le ping-pong.
La pelote basque.
Le spongiste. La pelote basque. Je
crois qu'on les a perdus.
on a encore perdu nos auditeurs maintenant. Ça commence à plus être drôle, ça, Julien. Ah,
c'est
Pierre, une expression, là.
C'est pas les auditeurs qu'on a perdus, là, c'est les chroniqueurs.
C'est les chroniqueurs eux-mêmes, bon, d'accord. D'autres choses sur l'affaire, c'est en train de devenir une affaire, peut-être Dieudonné. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous savez que le ministre de l'Intérieur veut inciter les préfets, s'ils estiment qu'il y a trouble à l'ordre public, l'interdiction de
beaucoup
ces spectacles.
Beaucoup de blabla pour moi.
C'est-à-dire
que pour moi, ce n'est pas forcément une des priorités actuelles et les politiques en font tout un pataquès. Alors certes, c'est sûrement pas beau du tout, voire même complètement affreux ce qui fait Dieudonné, mais de là en faire une priorité vraiment au gouvernement, je ne pense pas que ce soit vraiment une priorité actuelle en tout cas pour commencer l'année 2014. Quoi.
D'accord, c'est dit. D'autres choses, Arthur?
Petit point météo aussi.
Non, pas de point météo.
Alors moi, j'ai un dernier coup de gueule.
Je ne censure rien dans cette émission, mais ça, je vais censurer.
Où est passée la neige?
Je n'ai rien contre la météo, mais...
Où est passée
pas
la neige?
C'est la misère.
S'il vous plaît, les ours polaires, envoyez-nous un peu de neige.
Deux coups de gueule.
En plus, nous sommes en direct.
Je rejoins
ça Antoine. Marche, donc les gens voient à travers la fenêtre le temps qu'il fait, donc ça n'est pas la peine de prendre nos auditeurs pour des abrutis qu'ils ne sont pas.
Donc il me reste à un coup de gueule et demi, puisqu'il a été entamé par Antonin. Ouais, la neige pour les sports nets parce que hier. Oui, non, mais je finissais
assez
le coup de gueule.
C'est plus fort que les sports nets.
Voilà. Et donc, le dernier coup de gueule que j'ai à faire, c'est que ça s'est passé pendant les vacances. Enfin, en tout cas, les chiffres sont tombés pendant les vacances pour la nouvelle année. C'est la courbe du chômage qui s'inverse. Ça m'a entre guillemets bien fait rire parce que selon François Hollande, la courbe du chômage est en train de s'inverser alors que les chiffres du chômage augmentent. Bon, ma foi, ça m'a bien fait rire. Et c'est ça. Mais bon, si lui, il pense que c'est en train de s'inverser, on le laisse croire et il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, j'ai bien rigolé.
Entre communication et réalité politique, et puis surtout les chiffres, hein, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut?
Voilà.
Un dernier coup de gueule pour
la route.
On parlait du sport tout à l'heure. À propos de Zlatan Ibrahimovic, hein, le fameux joueur du PSG. Qui a gentiment dit, on l'a comparé avec l'une des plus grandes footballeuses du football suédois ces derniers temps, et il a dit, mais attendez, vous allez me comparer à une femme. Donc du coup, après, ça remet en place, vu l'image qu'il a mondiale, c'est une star mondiale, et pour avoir des propos tels qu'il a dit, je trouve ça totalement honteux.
Voilà. Vous avez entendu aussi cette publicité
alors que le football féminin est, voire... beaucoup plus joli à regarder que le football masculin.
Attention, parce que je ne sais pas si c'est pas macho à l'envers.
Le terme
de joli est ambigu.
Non, mais c'est-à-dire qu'elles font, au niveau de la technique et
pour des raisons sportives, tu veux.
Pour des raisons sportives,
c'était ambigu. C'est pour ça que je me permets.
Elles font pas 15 roulades quand on leur a touché le bout du nez. Voilà.
Je suis d'accord avec Antonin.
L'opérateur ADSL numéricable, la box, a fait une publicité. Vous savez qui a créé polémique aussi il y a quelques jours. C'était avec notre box ADSL, vous pourrez télécharger aussi vite que votre femme change d'avis. Donc on a un certain nombre de ligues féministes qui trouvent ça un peu rétrograde, c'est vrai.
Ça se comprend.
Et du coup, ils ont sorti une autre publicité à l'envers, un peu pour se rattraper, qui est, alors toujours le même slogan et le même argument, ça ira très vite grâce à notre box et aussi vite que votre mari ne respecte jamais ses engagements.
Ah. Et c'est la parité est respectée alors, on est rassuré.
La parité est respectée. Eh bien, on va peut-être se quitter, jeune Jean.
Peut-être.
Avec encore, je suis désolé, mais nos excuses pour ces soucis techniques. Restez fidèles, tenez bon, nous on tient bon la barre. On renouvelle notre appel sympathique, cordial et tout à fait dans la liberté d'expression auprès des hommes politiques, d'Iwa en particulier. En tout cas, dans 15 jours, on se retrouve, quoi qu'il arrive, c'est promis. Nous serons là pour trois sujets, comme toutes les fois, à midi 10 après le flash de... RFI, c'était CCC numéro 12. Passez une excellente quinzaine et à très bientôt sur 107.5. Il est 13h01 sur Radio Diwa.
Au revoir à tous.
Salut.